Orion Hebdo, Éric Bataillon.
Le maragan est un style musical très populaire en Égypte. Dès la fin des années 2000, cet électro-shabi s'est développé depuis les quartiers populaires du Caire où il animait les noces et faisait danser les convives. Utilisant des logiciels gratuits ou bon marché, les jeunes musiciens ont remixé de la musique traditionnelle égyptienne avec des sons électroniques tout en s'inspirant du rythme des rappeurs. Toutefois, les autorités l'ont dans le collimateur depuis plusieurs mois en raison de la teneur des textes, plein d'allusions sexuelles, de langage grossier et de référence à l'alcool. Pour en savoir plus sur le maragan, nous avons fait appel à l'anthropologue Nicolas Puig de l'Institut de recherche pour le développement. Un entretien à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ainsi que sur notre application Pure Radio, onglet Société. ما تشبش لحد ويد واحدة في الجاد والخاين ما بيننا محطوط له متساد صاحب الاونتر اللي اديته الامان مش جدع بشيلن في سوق النسوان بيكذب ويصدق وينقص كمان وغير في وش اللي كشف الزمان صاحب الاونتر اللي اديته الامان مش جدع بشيلن في سوق النسوان بيكذب ويصدق وينقص كمان وغير في وش اللي كشف الزمان رؤيه مبكسله والصحه مقندله عضلاتهم في لسانه والشفه مدلدله والشفه مدلدله تكذب وتصدق ولسه مكمله وانا بضحك عليهم مش شايف مشكلة عايش براحتي ومصدر تنحتي شايف من عندي الهلس اللي تحتي
On vient d'écouter un morceau emblématique du maragan, musique populaire et parfois populiste en Égypte, sous le coup d'une censure partielle par les autorités locales. Bonjour Nicolas Puig.
Bonjour Éric Bataillon.
Qu'est-ce que le maragan ?
Alors, vaste question. Déjà, maragan, ça veut dire à la base festival en arabe. Marhaganat, c'est les festivals au pluriel. C'est un courant musical qui est arrivé en Égypte au début des années 2000, dans le giron des mariages de rue, des mariages qu'on dit populaires, charabi, c'est-à-dire qu'ils ont lieu dans la rue, dans un espace qui est aménagé pour l'organisation d'un grand événement, d'un grand rituel urbain qu'est le mariage. Les musiciens, les jeunes DJ ou les nabachi, c'est-à-dire les personnes qui ont le micro et qui font des salutations au public, des espèces d'ambianceurs, si vous voulez, mais qui sont aussi chargés de récupérer les dons d'argent qui sont faits, ont progressivement fait évoluer cette formule du nabachi, de la salutation un peu rituelle et liée à cet échange économique et de prestige, vers une musique et vers des chansons. Et maragan vient du fait que les jeunes venaient dans ces mariages pour se regrouper et danser et que finalement, ils prenaient la forme d'espèces de festivals davantage que de mariages tels que les gens les connaissaient jusqu'alors.
C'est de la musique électro, c'est du rap. À quel style de musique cela correspond-il ?
Alors, stylistiquement, oui, c'est une musique qui est composée par ordinateur avec un certain nombre de logiciels qui ont circulé à l'époque. Et c'est très lié à une évolution technologique et à la dissémination d'un certain nombre de matériel. Donc, c'est du « do it yourself », comme on dit. Et donc, c'est effectivement entièrement électronique, enfin, au départ. Il peut y avoir quelques enregistrements plus tard d'instruments de musique, bien sûr, avec des influences rap, house, et évidemment, influence principale, le charabi, c'est-à-dire la musique populaire égyptienne qui éclot dans les années 70. Une musique urbaine, une musique avec des rythmes plus rapides, avec des formats de chansons plus courts, et qui s'était imposée comme la musique dominante. Et là, le maragan descend de cette filiation, si vous voulez, et la mixte avec du rap, avec de la house et des... Et ce type-là de musique électronique.
Oui, il y a une différence entre le maragan et le shabi. Hein, le shabi qui a été extrêmement populaire jusqu'à il y a quelques années, qui l'est encore d'ailleurs.
Tout à fait. Alors le shabi, il y a une différence énorme. C'est que le shabi est instrumental, ce sont des chansons. Le maragan est électronique. Après, le traitement du son, la façon de composer, les patterns musicaux, les rythmes diffèrent. Mais il y a quand même un certain nombre, disons, d'éléments musicaux du charabi qui vont se retrouver dans le maragan. Le charabi évolue beaucoup. Il est toujours présent, il se renouvelle et on a aussi, comment dirais-je, des formes de revival, des grandes chansons shaabi des années 70-80 qui sont rejouées dans des contextes qui ne sont plus populaires. Donc, dans des concerts, dans des à l'Université américaine du Caire, par exemple, il y a quelques années, ou encore là, très récemment, quand j'étais au Caire, au Cairo Jazz Club, où une excellente chanteuse reprend en fait une espèce de pot-pourri des grands tubes shaabi des années 70-80.
Donc le maragan, c'est de la vraie musique?
Bien sûr. Oui, c'est de la vraie musique, c'est de la vraie musique créative, c'est un processus de création. J'ai assisté à la façon dont la musique est composée. Bon, c'était il y a quelques années, hein, 2016-17. Aujourd'hui, ça change, ça évolue beaucoup. Mais évidemment, il y a un travail énorme qui est fait sur l'enregistrement des différentes pistes, sur la matière sonore, les effets sonores qui sont apportés, des lignes mélodiques. On arrive à des morceaux qui sont extrêmement complexes, qui sont très travaillés et qui sont une musique tout à fait à part entière et qui d'ailleurs circule énormément en Égypte et hors d'Égypte dans le monde arabe.
Sait-on où ce style de musique a émergé en Égypte et pourquoi dans ces endroits-là?
Alors, on le sait, oui. Disons que certainement ça a émergé de deux quartiers, enfin un quartier, une ville périphérique du Caire, le quartier de Mantariya et la ville périphérique de Medinet Salem, et puis Alexandrie également, puisqu'on a Dakhlaouia qui est un groupe qui émerge à Alexandrie au même moment. Et on a deux compositions qu'on peut retrouver sur YouTube, qui sont très belles d'ailleurs. Une de Medinet Salem et l'autre de Alexandrie. Celle de Medinet Salem est datée 2004. Donc à ce moment-là, émerge effectivement dans ces espaces-là ce type de musique. Ce sont des espaces où on a des falakh baladi, mais ce sont aussi des espaces qu'on va qualifier de rachouayet, c'est-à-dire des quartiers construits dans l'informalité, ou non réglementaires, si vous voulez, périphériques, et qui font l'objet d'une certaine stigmatisation urbaine, et puis aussi un manque d'infrastructures et un manque d'investissement collectif ou étatique dans ces lieux-là. Donc c'est dans ces espaces-là qu'émerge le maragan.
Dans une récente intervention écrite, vous notiez que les groupes pratiquant le maragan font explicitement référence à leur quartier d'origine comme un étendard en quelque sorte. Pourquoi ?
Il le faisait, tout à fait, et dès le départ. C'est-à-dire que le premier maragan s'appelle Maragan Salam, c'est Medinet Salam. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a cette dimension territoriale qui, au départ, est assez importante, parce que, à mon avis, elle vient des mariages de rue dans lesquels il est très important de féliciter les gens du quartier, les gens du territoire. Il y a cette conscience territoriale qui est très présente. Moi, j'ai surtout travaillé en fait avec les musiciens de mariage. Et ce qui était très présent dans les cérémonies de mariage, c'était toute la dimension territoriale, d'honorer le territoire, le quartier où on est. Donc je pense que ça procède de ça, il y a cette idée de mettre en avant, pareil pour Nathalie, quand j'ai rencontré Halabissa et les acteurs du Maragan, dans les Twins, le producteur, dans ce quartier, il y avait une vraie dimension de mettre en avant l'appartenance à ce quartier-là, de le valoriser par la musique.
Mais aujourd'hui, le Maragan se pratique ailleurs que dans les mariages?
Ah oui, complètement, et depuis le départ en fait, il est sorti du mariage, alors, il a circulé. Et donc, si vous voulez, on est passé d'un système de connexion du proche au proche, un système de la virtualité. Donc, il s'est diffusé partout. Il a été réapproprié dans les publicités, à la télévision, dans le cinéma. Il s'est diffusé dans l'ensemble de la société égyptienne, que ce soit concrètement dans les transports publics qui passent du maragan vers les vannes, les tuk-tuks, les triporteurs qui transportent des passagers. Et aussi sur le net, en parallèle, il s'est complètement diffusé. Et aujourd'hui, il est produit dans des différents studios du Caire, pas uniquement dans les quartiers d'où il est issu il y a une vingtaine d'années. De plus, il y a un certain nombre d'hybridations contemporaines qui existent avec d'autres types de producteurs, avec des rappeurs, avec de l'électro. Ils voyagent en concert en France, en Europe. Ils peuvent travailler avec un chorégraphe. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont agglomérées en fait autour de cette base de départ du maragan.
Musique de film peut-être aussi?
Alors complètement, c'est-à-dire que il y a un producteur qui s'appelle Sotki au Caire qui fait beaucoup de films populaires, mais ce sont des films populaires dans lesquels, et ça c'est avant le maragan, hein. Avant le maragan, il prenait des musiciens populaires shaabi comme Shaban Abdelrahim Nassan par exemple, et donc là il a fait la même chose avec les shababs, les jeunes du maragan, hein. C'est-à-dire que pour qu'il y ait plus d'authenticité, il va faire jouer des personnes qui sont issues des milieux populaires que décrit le film et en même temps surfer sur leur succès dans le public, les différents publics égyptiens. Et cela étant dit, c'est pas pour autant que ces types de musique vont être reconnus, si vous voulez, d'un point de vue institutionnel, parce que les créations de ces films, toute l'écriture leur échappe. Et on a vu la même chose en Inde, hein. C'est très bien étudié par un ethnomusicologue en Inde, où de la même façon, on fait jouer les acteurs de la société populaire, mais ils sont tenus écartés de l'écriture des films. Et quand je rencontrais les acteurs du Maragan à la fin des années 2010, 17, 18, tous se plaignaient des relations compliquées avec l'industrie showbiz, enfin l'industrie cinéma. Bien sûr, les films ont été importants aussi pour diffuser, au-delà de leur public, pour diffuser le Maragan et pour en fait en faire quelque chose de très mainstream.
Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi-hebdomadaire de RFI, mise en onde et réalisée par Mathias Golshani. Et nous sommes en ligne depuis Beyrouth avec Nicolas Puig, anthropologue à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, pour évoquer le Maragan, musique populaire en Égypte. Nicolas Puig, le chef du syndicat des musiciens, est venu à la télévision égyptienne pour justifier la décision de son syndicat d'interdire les chansons Maragan. Pour quel motif ?
Alors, effectivement, l'institutionnalisation du Maragan, donc si on la regarde au prisme de sa relation avec le syndicat des musiciens égyptiens, est assez intéressante parce qu'elle montre une évolution politique, en fait. En 2009, on a les premières cartes pour les DJ, c'est-à-dire que les DJ peuvent avoir une autorisation pour exercer en tant que DJ, donc ils ont un statut reconnu auprès du syndicat. Dans les années 2010, juste après la révolution, il existera un carnet, c'est comme ça qu'on appelle la carte, carnet, Mutrib Maragan, ou Mourenni Maragan, plutôt chanteur de Maragan. Mutrib étant le terme quand même réservé à des gens qui vont chanter plus une musique entre guillemets classique, néoclassique, ou Kalsoum et toute cette école, hein. Et temporairement, enfin dans la suite de la révolution, il y aura un statut reconnu. Et puis ensuite, ça va se dégrader progressivement, peut-être aussi à mesure que le succès grandit et que cette musique pénètre dans tous les foyers et qu'elle est aussi exportée. Je pense que c'est une des craintes du syndicat parce que bon, le Maragan va progressivement être déconsidéré et faire l'objet d'une certaine stigmatisation, bon, qui existe dès le départ, hein. Mais qui là va s'institutionnaliser par la politique du syndicat vis-à-vis des musiciens qui pratiquent ce type de composition musicale ou ce type de chanson. Et donc, ils vont finir par effectivement proposer cette interdiction. Alors, j'étais au syndicat des musiciens il y a 2 jours, et l'informaticien, celui qui rentre toutes les données sur l'ordinateur, a mis du Maragan sur son ordinateur. Et tout le monde de rire de cette bonne blague. Ça, c'était il y a 2 ans. Je crois, enfin, fin 2021, début 2022, cette interdiction-là. Depuis, en fait, ce qui est interdit, c'était le terme Maragan, alors qu'il ne fallait plus employer le terme. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, il y a une espèce de tentative, je dirais, de discipline qui a été imposée aux chanteurs de Maragan, qui en même temps permet aussi une certaine institutionnalisation et donc récupération du mouvement, avec 2 statuts qu'il aurait proposés. En fonction d'un petit examen de chant qu'ils doivent passer, ils vont être soit mis dans la catégorie Mutrib Shaabi, donc chanteur populaire, soit dans la catégorie Ada Sauti, c'est-à-dire performance vocale. Donc s'ils chantent pas mal, ils seront du côté des chanteurs, et s'ils n'arrivent pas à montrer qu'ils chantent correctement du point de vue des critères des examinateurs du syndicat, ils seront placés du côté de la performance vocale.
Néanmoins, est-ce à dire que cette musique n'est pas assez politiquement correcte ? C'est cela ?
Elle n'est pas politiquement correcte, elle déplaît pour des raisons esthétiques et de moralité relativement à certains des thématiques qui peuvent être abordées dans le Maragan et relativement au type de musique, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus acceptée, surtout qu'il y a beaucoup d'hybridation. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un petit peu moins de réticence, je dirais, musicologique, parce qu'au départ, elles étaient très fortes. On leur reprochait, un peu comme pour le rap, hein, d'importer des modèles extérieurs de création musicale, on leur reprochait leur usage de l'autotune, on leur reprochait le traitement du son, des éléments de musique, on leur reprochait de pas savoir chanter, de se cacher derrière l'autotune classique, des choses classiques de ce type-là, et aussi de la vulgarité de l'autotune telle qu'il l'utilisait en fait comme effet sonore, hein, pas juste pour remettre la voix à la bonne tonalité. Et aujourd'hui, ces questions morales, enfin, c'est ce qui est dit, c'est leur discours. Hein, si on les écoute, l'argument avancé, c'est comment on peut laisser ce type de musique rentrer dans les foyers où il y a des mères, où il y a des filles, où il y a des enfants. Comment on peut laisser ce type de musique se diffuser hors d'Égypte et donner une mauvaise image de la tradition, de la grande tradition musicale égyptienne. Et derrière ça, en filigrane, il y a évidemment une certaine stigmatisation finalement, de, en fait, et assignation territoriale qui va avec. De là d'où vient le Maragan, en fait, c'est-à-dire des zones populaires, des Hachouaïettes, de tous ces quartiers informels. C'est toujours la même lutte des classes culturelles qui s'exerce envers les acteurs du Maragan. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est en train de s'éloigner un petit peu de ça. Il y a des nouvelles têtes qui sont apparues du Maragan. Les anciens du Maragan ont maintenant 20 ans de carrière et soit ils ont quitté, soit ils ont quitté la carrière, ils peuvent devenir producteurs, managers, soit ils sont dans des expérimentations musicales, soit ils restent effectivement dans ce qu'ils ont toujours fait. Et donc là, ils vont trouver à travailler dans les mariages, mais être un peu moins médiatisés et repasser dans le système, si vous voulez, que je décrivais au départ comme un système de la connectivité, du proche au proche, et travailler dans les mariages, dans les quartiers, etc.
Nicolas Puig, si vous aviez un artiste à nous suggérer, quel serait-il ?
Ben, il y a beaucoup, c'est difficile. Il y a un artiste intéressant parce qu'il a justement pris ce virage. Il est passé du côté de l'expérimentation musicale avec compositeurs électro, avec des producteurs de rap. C'est Alain 50 qui est un acteur historique, probablement un des premiers, si vous voulez, à chanter le Maragan. Mais s'il fallait désigner un producteur, parce qu'il y en a, on a les chanteurs et puis on a, bon, Alain 50 compose aussi. Mais il y a le producteur, je pense, très important, c'est Amru Haha, donc Amru Haha, qui est un des plus grands producteurs de Maragan sur les 20 dernières années, qui a une production vraiment très, très, très importante et très diffusée, et qui est quelqu'un qui explique un peu comment lui travaille. Ingénieur informatique travaillant dans la téléphonie, comment petit à petit il a réussi, en bricolant des téléphones, à commencer à composer. On lui demandait des sonneries de téléphone et finalement, il a fini par les produire lui-même. Et comment il est arrivé à devenir un producteur de Maragan avec ses premiers logiciels qui circulaient et ses premières machines qui ont un petit peu abordable, ses premiers ordinateurs qui ont permis les premières compositions de Maragan.
Merci Nicolas Puig.
Je vous en prie, merci Éric Bataillon.
Anthropologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et à l'URMIS, Unité de recherche migration et société.
اللي فاني نسيته من حياتي لغيته ده انتو لما مشيتوا الدنيا ضحكت لي في ناس كتير فرقوني بس ولا شغلوني موت على قبلوني لو شفتوا في جدع عنتي لو شفتوا في جدع عنتي رح عدتوا في حياتي مش حوار يعني يا جدعان الشغل باك قلب روقاني والباقي في خانت النسيان سعلكوا كان غالي بس بقى عاد بالسلامة وطز كمان أصلي مش فاض اختصاراتات طز في الرد والزعلان اللي حصل كلاتي قلت جول اخواتي وعشان
Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi. Prenez soin de vous. Dans un instant, le journal.